dans l'eau et dans le vent. Quand Roméo m'a annoncé dans la voiture qu'il fallait qu'on rentre tous les deux parce que Malou était morte elle aussi, je n'ai pas compris comment cela était possible. L'amour pouvait donc exiger de la mort qu'elle emporte le couple pour lui épargner la séparation? C'est alors qu'il m'a expliqué que Malou et Jean avaient été plus forts que la mort, car c'était eux qui avaient pris la décision face à elle. Nous avons très peu parlé sur le chemin du retour. Il avait plusieurs CD de Jacques Brel dans sa voiture. Nous les avons tous écoutés au moins deux fois. Je me concentrais sur les paroles, les magnifiques paroles qui parlent si bien de la vie, de la mort, de l'amour. Les grandes questions humaines, finalement. Celles autour desquelles tournent toutes les problématiques de ce monde. Je n'ai pas pleuré. Je ne voulais pas pleurer avant de comprendre ce qui s'était passé. Je savais seulement qu'une lettre m'attendait à la maison de retraite. Puis, je venais de dissoudre ma peine dans l'immensité de l'eau et des sommets. J'avais une longueur d'avance sur le chagrin. Quand nous sommes arrivés dans la soirée, la directrice nous a expliqué qu'on les avait retrouvés enlacés, dans le lit de Jean, le visage recouvert jusqu'au-dessus du front par le gros édredon en plume de Malou. Quand on l'avait soulevé, on avait remarqué qu'un léger sourire flottait sur leurs lèvres. À côté était posé un verre d'eau presque vide et quelques cachets de somnifères qu'ils avaient laissés là. Ils en avaient probablement avalé bien assez déjà. L'édredon, c'était une précaution supplémentaire, au cas où. L'infirmière qui les a trouvés nous a dit ensuite que, une fois passé le choc de les découvrir ainsi, elle les avait trouvés très beaux. Ils étaient vêtus légèrement. Un t-shirt et un pantalon de coton pour Jean et une chemise de nuit blanche en lin brodé pour Malou. Ils étaient tournés l'un vers l'autre. Jean avait passé ses jambes sur celles de Malou et elle avait posé sa main sur la joue de Jean en l'entourant de ses bras. Il était rasé de près. Elle était joliment coiffée et maquillée. Il sentait bon. Et puis, ce sourire. Les yeux fermés, mais ce sourire. Ils s'aimaient follement. Ils avaient choisi. Ils avaient eu une belle mort. Nous ne sommes pas restés bien longtemps. Ils avaient été emmenés au funérarium où nous ne pouvions nous rendre que le lendemain. En attendant, je ne savais pas où dormir. La question ne s'est même pas posée pour Roméo. Il s'est garé devant chez lui et a porté mes affaires. Vanessa pleurait dans les bras de Guillaume sur le canapé du salon. À part Roméo, son pépé était le dernier bout de famille qui lui restait. Il n'était plus que deux désormais. Elle encaissait mal. Guillaume faisait airbag comme il pouvait en lui caressant les cheveux. Roméo m'a emmené dans la chambre de Vanessa et s'est assis à côté de moi, en silence, sur le lit, le temps que je lise la lettre de Malou. Et puis, quelques minutes après que je l'eus repliée, il m'a regardée et m'a dit que je pouvais m'installer quelque temps dans sa chambre. Il dormirait au salon. De toute façon, toutes mes affaires étaient déjà là, récupérées dans la rue, un peu en vrac, mais là. 6 mois plus tard, j'habite toujours chez eux. Roméo a réintégré sa chambre sans que je l'aie pour autant quittée. Ça a mis du temps, pour lui, pour moi. Il est du genre à prendre la main au bout du 10e rendez-vous, et encore en tremblant. Moi, j'avais besoin de laisser du temps à la petite graine de pousser dans le terreau fertile dont parlait Malou. Tant de choses s'étaient passées depuis le jour où je l'avais accueillie en réa. Ce n'est pas tant la coupure qui fait mal, mais sa cicatrisation. Et plus la blessure est profonde, plus la guérison est longue. Mais la plaie finit toujours par se refermer. Toujours. Pourquoi n'en serait-il pas de même avec le cœur? J'ai pris le temps de le connaître mieux, de rire en sa compagnie, de pleurer aussi, de me passionner pour son travail. Roméo, j'ai appris à l'aimer. J'ai posé chaque jour, à chaque instant, un regard bienveillant sur ce qu'il était, me réjouissant de ses qualités, me fichant bien de ses défauts, partageant, réfléchissant avec lui, ne craignant pas d'exposer mes vues aussi. Ce n'était pas toujours facile, nous avions beaucoup de différences, mais j'ai fini par trouver sa longueur d'onde et je me suis branchée dessus pour qu'on reste en phase. J'ai repris le travail en demandant un poste en réa avec Guillaume pour profiter de lui plus souvent. Après tout, ma place était là. J'aime tenir la main des patients pour éviter de devoir les attacher. Nous sommes allés quelques jours à Brest, Roméo et moi, pour réaliser le vœu de Malou. Avant de partir, nous avions commandé au préalable chez un fleuriste de la ville un sac de pétales et une rose blanche, comme elle le souhaitait. Il pleuvait ce jour-là. Brest. Une pluie légère qui n'a pas perturbé la lente et virevoltante descente des pétales jusque tout en bas du pont. Et puis, la rose pour Pierre. J'en avais pris une deuxième pour Malou, parce qu'elle était un peu là, avec nous. Et puis aussi une petite pâquerette pour Célestine. Je me suis ensuite accrochée au grillage de protection du pont pour tenir debout le temps de me dire Oui, à ce qui est. Puisque de toute façon, je ne pouvais rien y changer. Il m'a fallu beaucoup d'énergie pour ne pas chanceler. Mais j'ai tenu le coup. Parce que je savais qu'ils étaient bien, tous ensemble. J'osais l'imaginer. Roméo a posé ses mains sur mes épaules, m'a retourné vers lui et m'a embrassé pour la première fois. Sur le pont des suicidés de Brest. D'aucuns diront qu'il y avait plus romantique comme lieu pour un premier baiser. Certes. Mais il y avait aussi dans ce geste un joli symbole. La mort en bas, la vie là-haut. Avant de rentrer, nous avons fait un court séjour en Haute-Savoie. Alexandre nous a emmenés au beau milieu du lac par grand vent. Il ne fallait bien ce vent fort pour emporter une partie des cendres de l'urne que je tenais à l'horizontale au-dessus de l'eau. Le lendemain, c'est au milieu des bouquetins, au col de Pavis, là où le vent souffle aussi, que s'est éparpillée l'autre moitié des cendres. C'était un moment intense. Je sais que Malou et Jean font désormais partie de l'immensité. J'ai souvent repensé à Alexandre. Nos retrouvailles, juste après le départ de Célestine, ont signé la renaissance, puis la fin immédiate de cet amour incroyable que j'avais pour lui depuis toujours, sur lequel j'avais posé un voile. J'ai réussi à passer outre à l'amertume du non-choix de mes 20 ans. Nous sommes la somme de nos choix, mais aussi de nos non-choix. Il faut assumer, et les regrets ne changent pas le passé. Par contre, ils ternissent le présent. Alexandre est toujours là près de moi, comme une petite lumière qui éclaire ma vie. Mais autrement. Si on ne peut pas revenir en arrière, on peut au moins composer avec le présent pour que les instants suivants soient meilleurs. Depuis, nous avons trouvé chacun notre place l'un par rapport à l'autre. C'est le plus bel ami qui soit. J'ai évoqué avec Guillaume sa rencontre improbable avec cette gamine paumée qui ressemblait à une brebis blessée au milieu des loups et qui montrait les dents pour ne pas se faire bouffer. Il m'a répondu qu'il n'a jamais cherché à comprendre les événements. Il les a vécus. À juste titre, il m'a rappelé l'effet qu'avait eu Alexandre sur moi quand j'étais adolescente. C'était la même chose. Il n'y a pas d'âge pour ressentir cette émotion-là. L'évidence. Celle-là même qui mariera bientôt Guillaume et Vanessa. La robe de mariée, nous l'avons trouvée dans les affaires de Malou. Elle avait tout prévu, y compris un patron qui permettait d'ajuster la taille par quelques coutures précises. Une robe parfaite de simplicité et d'élégance, à l'image de sa créatrice. Ainsi, Malou sera un peu avec nous ce jour-là. Avec Roméo, si l'évidence n'a pas été immédiate, elle guide désormais ma vie. On a aussi le droit de choisir et de construire des évidences quand on sent qu'elles sont particulièrement adaptées à notre bonheur. J'ai retrouvé une forme d'équilibre, même si le combat contre Laurent a été âpre. Il n'a pas dérogé à sa règle de conduite, et je pense que si je n'avais pas eu Roméo et Guillaume pour me soutenir et faire face à ses agressions permanentes, ses tentatives de déstabilisation, ses mots froids et violents, je serais devenue folle. Et puis un jour, Roméo, tout musclé qu'il était, est entré dans l'agence, puis est allé tout droit dans le bureau de Laurent, s'est planté devant lui au beau milieu d'une réunion et lui a dit que s'il essayait encore une fois de m'approcher, il lui casserait la gueule, quitte à être condamné pour cela. Il a dû être très convaincant. Je n'ai plus eu aucune nouvelle. J'ai quitté cet homme en laissant tout derrière moi, quelques meubles et surtout mes économies. Mais je suis partie légère, sans rien devant mais légère. J'avais pu sauver Lisette, le principal, mes albums photos, quelques vêtements auxquels je tenais. Les petites culottes en dentelle, je les ai données à Vanessa. Elle m'a sauté au cou comme une gamine, la gamine heureuse qu'elle était. Je suis souvent revenue sur ces années, en cherchant à comprendre ce qui avait bien pu se passer pour que je tombe dans cet engrenage malsain. J'ai compris que la seule chose qui m'avait vraiment manqué, c'était ce discernement dont on a besoin pour savoir si l'on se respecte. Malou avait raison dans sa lettre. Je ne me suis pas respectée en laissant cet homme me mépriser, me maltraiter psychiquement, puis physiquement. Aujourd'hui, je vérifie au quotidien si je suis suffisamment vigilante et j'avance en exigeant de la vie qu'elle préserve mes facultés de jugement. Partout, tout le temps. J'évolue dans cet état d'esprit en acceptant l'idée parfois difficile et pourtant indubitable qu'une grande partie de notre existence ne nous appartient pas. Les rencontres, les amours, les occasions, les au revoir ou les adieux, les petites joies ou les grandes peines, les petites peines et les grandes joies. Chacun y participe, à son échelle, mais finalement, c'est le destin qui décide. Comme disait Malou, le destin, souvent pour de bonnes raisons. Ce destin, nous avons décidé de l'influencer quand même un peu pour qu'il chemine vers d'autres expériences. Roméo étant tombé amoureux de la Haute-Savoie en venant m'y chercher, il a convaincu Vanessa et Guillaume de s'y installer avec nous. Pour ma part, nul besoin de discours. J'avais dit oui avant même qu'il en ait l'idée. Vanessa a passé le concours d'infirmière pour entrer à l'école de Thonon-les-Bains, qu'elle a réussi haut la main. Elle avait tellement travaillé au lycée. Elle était devenue tellement plus mature. Guillaume et moi avons postulé pour une mutation. Pour les infirmiers, c'est assez aisé. Pour les pompiers aussi. Quelques mois de démarches, cependant, nous ont été nécessaires pour y arriver. Nous avons opté dans un premier temps pour un grand appartement en colocation, avec un espace pour chacun, en nous laissant la liberté de rompre le contrat si l'un de nous voulait voler de ses propres ailes. Nous avons aussi choisi d'organiser le mariage de Guillaume et de Vanessa au bord du lac, dans un petit restaurant proche d'Antilles. Les signes sur le port de Sechex. La complicité d'Alexandre nous permettra de partir sur l'eau, à minuit, avec quelques bouteilles de champagne et beaucoup, beaucoup de joie pour accompagner ce moment-là. Je n'ai pas d'enfant, mais je ne suis pas seule. Je ne suis plus seule. D'abord parce que je me suis retrouvée. Ensuite parce que je me sens entourée. J'ai interrogé l'univers, il m'a confirmé que j'étais une personne à part entière, même si je n'avais pas d'enfant. Je suis entière et heureuse. Cher toi, demain je me marie et je fais un pied de nez à la vie. Je savoure la revanche. Tout est organisé pour notre comité plus que réduit. Il ne manquera que Christian. Il ne pourra pas venir. Il a trouvé sa Marcelle. Après mes conseils avisés d'il y a 3 ans et face à l'étanchéité persistante de sa femme, il s'est inscrit sur un site de rencontre. Pour rire, il a commencé à chercher une femme qui aurait ce prénom. Il n'a pas eu besoin d'aller plus loin. Il a trouvé une Marcelle martiniquaise d'une 50aine d'années, tendre et aussi chaude que son île, sur laquelle il est parti en laissant tout derrière lui. Finalement, j'avais raison quand même. Les quelques personnes qui seront là font partie du clan. Un tout petit clan, mais un vrai clan, comme dans l'âge de glace. Je veux pas être Cid. Non, moi, je suis plutôt le mammouth qui se prend pour un opossum. La femme qui se prend pour un homme. Cela dit, je suis redevenue une femme au contact de Guillaume. Une femme à qui on tient la porte, en gardant quelques automatismes quand même. Parfois, ça protège de se conduire en homme, pour se défendre des requins. Je crois que je vais arrêter de t'écrire. Je vais commencer l'école d'infirmière et je n'aurai plus beaucoup de temps. Et puis maintenant, c'est à Guillaume que je dis tout. Mais j'aimerais que tu te souviennes des 2 mots importants qui ont changé ma vie pour toujours, des fois qu'il m'arrive de les oublier et que je veuille me les rappeler. Évidence, non féminin. Caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force qu'il n'ait besoin d'aucune autre preuve pour en connaître la vérité, la réalité. Respect, non masculin. Sentiment qui porte à accorder à quelqu'un une considération admirative en raison de la valeur qu'on lui reconnaît et à se conduire envers lui avec réserve et retenue. Ces 2 mots ont changé ma vie pour toujours, parce que j'avance maintenant en les ayant en ligne de mire permanente. Ça trace le chemin, un sage chemin, qui permet de savoir où on va, comment et pourquoi. Je sais où je vais. Je pars avec lui. La belle vie, quoi. Enfin, j'en ai jeté les épluchures. Nicole Ferschneider.